Bonjour, mon Richard au micro. Et bien pour cette émission, bienvenue en Europe. Nous nous retrouvons avec Monsieur Michel Bourgès-Monori pour notre première émission de l'année. Donc on vous dit bonne année, mais en même temps aussi, bonne année l'Europe.
Bonne année l'Europe.
C'est une année d'élection européenne, donc bien voilà. Et puis après la tornade politique de l'an dernier, on a l'impression quand même qu'on peut être optimiste et que, en France, on perçoit en tout cas qu'un certain nombre de personnes s'intéressent davantage à l'Europe. Donc bonne année, je renouvelle ses voeux à l'Europe, à l'euro, et puis surtout à la conscience des citoyens et de leurs responsabilités pour être des citoyens européens. Parce que c'est important aujourd'hui, dans un contexte un peu
bouleversé. Et nous sommes tous concernés par le fait qu'on est par l'Europe, et en tant que citoyen, on a notre mot à dire dans sa construction, et notamment en ce qui concerne les réformes, les projets de réformes qui ont été mis en avant, notamment par le président français, le président Macron.
Oui, alors parlons des vœux.
Alors, on parle des vœux parce que le président français, une fois n'est pas coutume, a insisté beaucoup dans ses vœux de nouvel an, sur la relance de l'Europe. Et ceci est à noter. Il a notamment rappelé qu'une France forte, une France qui doit réussir, qui peut réussir, elle ne le peut que dans une Europe qui, elle aussi, est forte. Et il a notamment rappelé que, en ce qui concerne les citoyens, on ferait appel précisément à eux cette année, pour notamment durant le premier trimestre, pour essayer de demander de réunir les idées des uns et des autres. Et chacun sera appelé, notamment à travers des interrogations par Internet, pour que chacun n'hésite pas à dire ce qu'il pense et ce qu'il voudrait, désirerait et attend de l'Europe. Donc tout ceci fait partie d'un tout où il y a manifestement des souhaits de relance, non pas d'ailleurs seulement en France, mais également dans un certain nombre de pays. Ceci étant, sans tomber un angélisme trop fort, il y a malgré tout aussi un arrière-plan de renationalisation qui est sous-jacent, notamment à travers ce que l'on a déjà vu l'année dernière, les flux migratoires et les élections qui ont amené...
Qui portent au pouvoir des gens qui sont assez nationalistes. Justement, est-ce que... Dans cette disposition qui va vers les citoyens et qui leur demande de donner vos idées au travers l'Europe, c'est déjà quelque chose qui existe parce que finalement, en Europe, dans un processus de réflexion et de loi proposée par les instances européennes, il y a quand même aussi la consultation des citoyens et de tous ceux qui se sentent, interpellés par des projets. Et à condition de dire... à quel titre on est intéressé, il me semble qu'il y a la parole aux citoyens. Peut-être on l'oublie trop, non ?
Oui, tout à fait, parce qu'on a toujours tendance à dire, voire à penser que l'Europe, enfin quand quelque chose ne marche pas, c'est la faute à l'Europe. Croyant d'ailleurs que l'Europe est habilitée à traiter de toutes les questions, en oubliant qu'il y a une répartition tout à fait précise en ce qui concerne les affaires proprement nationales et celles qui relèvent de la seule compétence des institutions européennes. Alors c'est vrai, ce n'est pas toujours facile à connaître parce que si on n'est pas spécialiste, on n'est pas censé connaître toutes les matières qui relèvent uniquement de l'Europe en tant que telle par rapport aux nations, mais c'est quand même important et dans beaucoup de cas, ce qui est critiqué notamment, relève du niveau national et pas du tout du niveau européen. Il y a une, par exemple, en ce moment, début de l'année, donc 2018, comme tout début 1er janvier et 1er juillet, pendant les 6 premiers mois, le premier semestre de l'année, il y a ce que l'on appelle une présidence tournante du Conseil, le Conseil étant l'une des 3 institutions à côté du Parlement, de la Commission européenne. Donc le Conseil, il représente les États. Les États, eh bien, il y a une présidence tournante. Chaque fois, un pays prend cette présidence. À l'heure actuelle, c'est donc la Bulgarie qui va prendre la présidence du Conseil, cette présidence tournante à partir du 1er janvier, sera suivie par l'Autriche le 1er juillet. Et la présidence qui vient de se terminer en décembre, c'était la présidence de l'Estonie. Et quand on voit ces présidences tournantes, alors ce sont des présidences qui président qui coordonne les réunions des États au niveau ministériel. C'est-à-dire que chaque sujet, chaque proposition de loi rentre dans le champ, par exemple, du marché intérieur, de l'agriculture, des finances, etc. Donc il y a des conseils spécialisés qui réunissent les ministres des États membres et qui traitent des sujets qui sont sur la table au niveau législatif, sur proposition de la Commission européenne, et qui doivent être décidés par les États, donc à travers le Conseil, d'un côté, et le Parlement européen, de l'autre.
Ça, c'est important ce que vous dites, parce que souvent on oublie, pardon de vous couper, mais il me semble que ça, c'est une étape de la loi. Et lorsqu'on dit « l'Europe prend des dispositions », en fait, ce n'est pas l'Europe. L'Europe, c'est vague, c'est à la fois un espace géographique et une idée. Mais très concrètement, ce sont bien... Sur l'agriculture, nos ministres de l'agriculture des 27 pays ou 28 pays ou 29 pays suivant le cas, et ce sont bien sur des questions de santé, les ministres des affaires sociales, et je crois que là, souvent, on l'oublie.
On l'oublie et on n'imagine pas, évidemment ça ne se voit pas, le nombre de réunions préparatoires à tous les actes législatifs. Qui sont pris au niveau européen. Parce qu'il faut réunir généralement une majorité, puisqu'il y a la règle de la majorité qui s'impose selon les sujets. C'est une majorité qualifiée ou une majorité absolue.
Ou l'unanimité. Ou
l'unanimité, c'est-à-dire...
C'est encore plus difficile. Donc
il y a des règles à respecter, mais ce que l'on ne voit pas, c'est... toute cette dimension préparatoire. La présidence estonienne a précisément fait le calcul de toutes ces réunions au cours des 6 derniers mois. Elle a travaillé sur 377 initiatives particulières et différentes. Elle a organisé 275 événements autour de cela à Tallinn, donc leur capitale, en Estonie. Et elle a dirigé plus de 1200 groupes de travail et tenu 31 réunions ministérielles. Tout cela pendant les 6 mois de juillet à décembre 2017.
Lorsqu'on va passer aux autres, ça va être la même chose.
Alors en fonction, évidemment...
On avance quand même.
Il y a la Commission européenne qui propose un programme
et
qui est mis en accord avec la présidence. La présidence qui se met en place, la présidence bulgare en l'occurrence, prépare l'agenda avec la Commission européenne. Je le sais particulièrement parce qu'à chaque fois qu'il y avait une présidence tournante, je la préparais au nom de la Commission avec la présidence. Et la Commission arrive avec son listing, pour parler en bon français, et puis la présidence essaie de voir dans cette liste quelles sont les priorités qu'elle, en tant qu'État, en particulier là, la Bulgarie, souhaiterait mettre plus en avant. La présidence bulgare a ainsi retenu 4 sujets plus importants qu'elle estime, elle, devoir être mis sur le devant de la scène, qui évidemment ont un rapport plus particulier avec la Bulgarie, ceci est normal. Mais c'est important de le souligner parce que c'est à travers cela que les États, s'ils font bien leur travail vis-à-vis de leur population, peuvent associer justement les populations au fait que la présidence se tient dans le pays même, chez eux, il y a des réunions, les citoyens peuvent être appelés à participer. Et alors ils ont retenu, c'est peut-être prémonitoire d'une évidence, mais il se trouve que dans la devise bulgare, c'est « l'union fait la force ».
C'est pas mal.
Ils ont retenu, ils ont dit, on va proposer ce sujet, ce thème, comme prioritaire pour notre propre présidence, et autour de 4 grands thèmes, l'avenir de l'Europe et les jeunes, les Balkans occidentaux, parce qu'évidemment ils sont très proches de ce qui peut se passer en Serbie notamment, etc., dans cette région-là, et la sécurité et la stabilité de l'économie numérique, qui fait suite d'ailleurs au sommet qui s'est tenu à Tallinn sous présidence estonienne.
Donc avant de poursuivre, bien nous allons faire une pause musicale, puisque là on voit quels sont les éléments de l'agenda. On va, après la pause, préciser cet agenda européen de l'année. Sur Radio Grand Ciel, dans l'émission Bienvenue en Europe, et après avoir évoqué les projets de la présidence bulgare, eh bien, voyons un peu ce qui se passe au niveau plus général, notamment des relations internationales.
Oui, alors il faut peut-être rappeler comment tout ceci fonctionne de manière plus ou moins pratique. Il faut d'abord que les auditeurs comprennent que le Conseil, c'est les réunions des ministres des gouvernements des États membres. Donc ils sont autour de la table, 28 à l'heure actuelle, ils seront 27 après le Brexit, une fois que le Royaume-Uni aura quitté l'Union. Donc il y a 27 ministres, la présidence du pays qui préside, qui coordonne et cherche à trouver des compromis et organise le travail sur base d'un agenda, et tout ceci est fait, mais à l'exception du Conseil Affaires étrangères. Là, c'est la vice-présidente de la Commission qui est également la présidente de ce Conseil, parce qu'on a estimé qu'il fallait, à travers le traité de Lisbonne, qu'il y ait une coordination tout à fait importante et ne pas être au niveau des États, mais vraiment de l'Union. Donc il y a un côté symbolique à travers cela, et il faut dire que ceci a l'air de bien fonctionner.
Symbolique, mais en même temps important, parce que finalement, vu de... Au niveau international, c'est important lorsque l'on doit rencontrer des pays comme la Chine ou l'Inde ou le Mexique ou le Brésil, d'avoir aussi un ensemble un peu solide et un peu grand. Parce que finalement, oui. Que fait la petite Belgique ou la petite France face au Mexique ou au Brésil?
Tout à fait, tout à fait. Et même comme ça a été rappelé à l'occasion de la visite du président français en Chine, n'importe quel État, même le plus important, que ce soit l'Allemagne ou la France, n'est rien par rapport à des grands ensembles comme les États-Unis ou la Chine, l'Inde, voire le Brésil demain, tous ces grands ensembles économiques.
Parce que 1,4 milliard d'habitants, c'est quand même quelque chose.
C'est quelque chose, et nos à peine 500 millions d'habitants au niveau européen, c'est quand même mieux que les quelques dizaines de millions qui se réunissent l'un ou l'autre de nos États. Il y a, pour bien comprendre comment tout ceci fonctionne, à la suite du traité de Lisbonne, le Conseil européen. Là, ce sont les chefs d'État qui se réunissent. Et ils tracent normalement les grandes lignes. Ils ne rentrent pas dans les détails qui, eux, sont délégués auprès des ministres. Mais on vient de le voir à travers les affaires étrangères. C'est en principe, et là il y a un lien avec la position de la Commission européenne, puisque c'est la Commission européenne qui préside ce Conseil, la Commission européenne est en quelque sorte le futur, entre guillemets, gouvernement des États-Unis d'Europe, pour caricaturer, pour que ce soit clair pour les auditeurs. Le Conseil, lui, c'est un peu comme un Sénat. Il représente les États par rapport au Parlement européen qui, lui,
représente la population.
Alors le Conseil européen, c'est une invention de M. Giscard d'Estaing et du traité de Lisbonne ensuite, d'avoir créé la fonction de président de ce Conseil. Lui, il trace les grandes lignes au niveau des États. Mais il est à part donc de ces réunions ministérielles. Alors sans revenir dans le détail de ces préparatifs, mais il faut quand même voir que n'importe quelle proposition de législation prend au minimum 2 ans de préparation.
Alors ça veut dire là que la feuille de route organisée, pardon je vous ai coupé, mais est-ce que ça veut dire là que la feuille de route proposée par M. Macron ou Mme Merkel ou n'importe lequel de nos chefs d'État européens, ça prend 2 ans, donc finalement c'est au-delà de la législature de n'importe quel pays.
En principe, oui, parce que, sauf priorité et en fonction de l'actualité. Alors, il y a des discussions, notamment dans les projets de la France, à travers M. Macron, qui ont été notamment ciblées sur la réforme de la zone euro. Alors, on va voir le temps que ceci va prendre. Il y a déjà eu un début de réunion en fin décembre, Conseil européen. Donc il faut que les États se mettent d'accord, parce que là, on est un peu, en quelque sorte, en dehors des traités. Donc il faut que les États essaient de voir qu'est-ce qui ensuite relève des traités ou pas. Là, on peut ouvrir une discussion qui risque d'être longue, parce qu'il y a des approches très différentes, en ce qui concerne la zone euro, pour reprendre l'exemple, entre la position allemande et la position française. Or, on sait que si ces deux pays ne se mettent pas d'accord, eh bien,
ça
risque de patiner. Et ça prendra plus qu'au moins 2 ans. Mais pour que les citoyens comprennent bien, un projet de législation au niveau européen, ça met à peu près 2 ans. Ça rentre dans un programme qui est présenté par le président de la Commission européenne, qui est un plan quinquennal. Après, c'est retraduit. Ben, c'est long, mais au niveau d'un État membre, le gouvernement français a aussi présenté un programme plus ou moins quinquennal sur base du programme de son président. Donc c'est généralement la règle à peu près partout, en dehors, encore une fois, des urgences et des cas particuliers. Donc tout ceci rentre dans un schéma où le citoyen n'est pas du tout mis de côté, bien au contraire. Moi, j'ai vécu beaucoup de préparations législatives, je peux en témoigner. On n'imagine pas le nombre de réunions au niveau des experts nationaux, des associations, des réunions au niveau des pays qui sont organisées avant d'arriver à un compromis qui permettra de se mettre plus ou moins d'accord et de soumettre ce compromis aux États d'un côté et au Parlement européen de l'autre. Donc ceci fait partie d'un ensemble qui est beaucoup plus démocratique qu'on le prétend parfois.
Vous évoquiez tout à l'heure les relations internationales. Donc c'est Mme Mogherini qui est dans ce dispositif. Et les questions financières. Et justement, il me semble qu'on voit en tout cas dans la plupart des pays, ceux qui disaient « Bien non, nous allons sortir et nous allons sortir de l'euro ». Et finalement, on s'aperçoit que les populations, elles disent « Non, non, pas du tout. Nous, ça nous intéresse, l'euro ». Et ça, je trouve ça aussi assez réjouissant. C'est de voir que finalement, au niveau des gouvernements, du haut, on est en retard sur ce qui se passe en bas. En bas, on dit « Mais non, non, nous, l'euro, ça nous intéresse ».
Bon, il y a aussi, tout à fait, non, mais vous avez tout à fait raison de le souligner, les populations, y compris dans les États qui a priori étaient les plus réticentes, maintenant ont bien compris que si on sortait de l'euro, on risquait vraiment une faillite financière. Et donc, on sait d'ailleurs ce que cela a donné au niveau de l'élection présidentielle française de mai dernier, de mai 2017. Pour ce thème. Des pays comme la Grèce ont tout fait pour rester dans l'euro. Ils ne sont pas fous, ils ont bien compris que s'ils en sortaient, c'était la faillite totale du pays.
Alors c'est vrai qu'il faut tenir compte d'un aspect social, parce que vous évoquez la Grèce. En Grèce, il y a quand même un oubli des plus pauvres, et ça, ouais, c'est quand même très dommage.
Mais il y a derrière tout cela une question qui se pose, c'est l'inégalité entre les pays au niveau des économies, au niveau financier et évidemment budgétaire. Et il y a actuellement une concurrence fiscale notamment qui ne permet pas de résoudre et d'harmoniser en tout cas une approche qui serait plus juste entre les différents pays, si bien que Ceci alimente ceux qui disent que l'Europe
est faite,
leur coûte cher, etc. Mais il faut la reconnaître que, précisément, dans le domaine de la fiscalité, des finances, c'est la règle de l'unanimité qui joue. On ne peut pas prendre une décision si tout le monde n'est pas d'accord. Et jusqu'à présent, en ce qui concerne justement le budget, les finances, les sujets régaliens, etc., c'est l'unanimité. Donc il y a blocage, à moins que quelques pays se mettent d'accord et décident un peu en parallèle de lancer une procédure à part. Et ensuite, on voit si les uns et les autres suivent ou pas.
Alors là, c'est le rôle du Conseil.
Là, c'est le rôle du Conseil. Alors, tout ceci pour essayer de mettre les choses bien en place, pour que l'on comprenne comment l'Europe fonctionne. Alors, il y a, par ailleurs, puisque l'année commence, 2018, avec cette nouvelle présidence, un certain nombre de choses qui risquent de se produire, de perspectives.
Donc, parlons maintenant de l'agenda européen.
Alors, l'agenda.
Pour notre dernière partie d'émission.
L'agenda... Il y a un certain nombre, en 2018, ça va être une année particulièrement chargée. Il faut dire que l'année 2017 ne l'était pas moins, avec une succession d'élections majeures, notamment en France, Allemagne, Royaume-Uni ou même en Catalogne, on l'a vu. Et après, il y aura après l'année 2018, l'année 2019 qui va être celle du renouvellement du Parlement européen. Donc il faut voir que l'année 2018 va s'inscrire dans cette perspective-là. Et là, on commence avec une année européenne qui sera celle du patrimoine culturel. Alors ceci n'a pas beaucoup à voir avec des aspects purement politiques, mais c'est quand même important de le souligner parce que le patrimoine culturel européen est véritablement d'une richesse extraordinaire au plan mondial, mais c'est aussi très important que les populations européennes soient sensibilisées à l'importance de ce même patrimoine qui aussi a des retombées évidemment sur le plan économique et social. Donc, premier semestre, présidence bulgare. Deuxième semestre, présidence autrichienne. Là, on verra ce que cela va donner sous la dimension de l'Autriche. L'Autriche ayant un gouvernement, comme on sait, où l'extrême droite en fait partie et est particulièrement réticent en ce qui concerne certaines politiques, notamment sur le plan migratoire, des flux de migration en Europe venant d'Afrique, en Afrique et Syrie, etc. Au mois de janvier, on va avoir l'ouverture de la deuxième phase des négociations sur le Brexit. Donc la première phase est pas clôturé, mais il y a un certain acquis, en tout cas des engagements qui ont été pris. La deuxième phase est la plus importante, c'est notamment de parvenir à un accord commercial avec le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc si, et il faut absolument que tout ça soit bouclé pour la mi-octobre 2018.
Et pour qu'en plus, les élections puissent se faire ensuite, quand même.
Exactement, en plus. Parce que la sortie officielle du Royaume-Uni, c'est le 29 mars 2019. Donc si ce n'est pas mis en place avant, je ne sais pas, on risque d'avoir une coupure et le Royaume-Uni risque de se retrouver comme un pays tiers. Premier trimestre, formation du gouvernement allemand. Alors là, qui est en suspens, parce qu'on a évoqué la question de la relance, notamment à l'initiative de la France, de l'Europe, et notamment sur un certain nombre de dossiers, en particulier la zone euro. Et on a appris, au moment où nous enregistrons cette réunion, que précisément ce 12 janvier 2018, ce matin, un accord est intervenu pour une coalition entre la CDU, la CSU et le SPD. On n'en connaît pas tout à fait les détails. Ceci doit être confirmé dans le mois qui vient au niveau des instances de ces partis-là. Mais c'est quand même, après plus de 3 mois de négociations, de tergiversations, il y a enfin une fenêtre qui s'ouvre pour que, du côté européen, on puisse aller de l'avant. Et on sait que le SPD, donc de Martin Schulz, l'ancien président du Parlement européen qui représente les socialistes au niveau allemand, est un fervent partisan des États-Unis d'Europe, puisqu'il a même proposé qu'il y ait de tels États-Unis d'Europe en 2025. Maintenant, l'Europe, pour lui, était au centre, avec la dimension sociale, des négociations avec le parti qui soutient Mme Merkel. Donc on va voir sur le plan européen ce que cela va donner, mais a priori, c'est un...
En tout cas, on a évité les nationalistes, on a évité... En Pologne, on a commencé à éjecter aussi...
Donc il y a une fenêtre qui s'ouvre, manifestement, est enfin favorable. Alors,
voilà,
il y a... c'est quand même une nouvelle intéressante. Là, bon, il y aura toute une série d'autres choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails,
oui,
mais notamment
là, façon,
au premier trimestre, il y aura la révision finalisation des travailleurs détachés, la directive. Il y a au mois de mars des élections en Italie. Ça, c'est aussi un élément important à retenir. Le 4 mars a été choisi, donc on va voir ce que cela va donner, mais c'est tout à fait important au niveau européen. Il y aura au printemps jusqu'à l'été le lancement, on en a touché un mot tout à l'heure, des conventions démocratiques sur l'avenir de l'Europe. C'est l'ensemble des citoyens qui va être appelé à se prononcer. Il y a
à réfléchir. Avancer les idées.
Il y a notamment au mois de juin la réforme de la zone euro qui va être remise en discussion à la suite du sommet de la fin d'année 2017. La réforme du droit d'asile en ce qui concerne les questions des migrants, tout ça au niveau des migrants. Je passe sur la Coupe du monde de football qui se tiendra, qui a une dimension européenne sans doute.
Si
mais au deuxième,
ça fait reculer le racisme.
Deuxième semestre, la présidence autrichienne, on l'a vu. Une négociation au niveau de l'Assemblée nationale française, d'ailleurs, en ce qui concerne l'accord de libre-échange avec le Canada, donc le fameux CETA. Ça sera au niveau européen aussi intérêt à en souligner. Il y aura la COP24 qui se tiendra en Pologne au mois de novembre. Il y aura la révision du cadre financier pluriannuel dans la prévision du futur quinquennat. Donc il y a beaucoup de choses avec d'autres sujets, je ne rentre pas dans les détails, quand même je touche un mot sur la possibilité d'instaurer une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés. C'est assez important au niveau de la fiscalité telle qu'on l'avait envisagé tout à l'heure.
Justement, en ce qui concerne les paradis fiscaux, l'Europe a avancé en favorisant le reporting pays par pays. Donc ça, c'est une bonne chose concernant l'évasion fiscale. Par contre, les entreprises ont le droit de cacher un certain nombre de choses si cela peut entraîner des indiscrétions qui leur seraient nuisibles.
Alors, en tout cas, les sujets ne manquent pas. Les sujets ne manquent pas, on y reviendra lors de nos prochaines émissions. Mais le calendrier est très chargé et sans parler de l'actualité qui, elle, peut nous révéler des surprises. En tout cas, tout ceci s'insère dans le plan quinquennal qui a été mis au départ par la Commission européenne, qui a été accepté au niveau des États et du Parlement européen. Tout ceci se coordonne, s'imbrique les uns dans les autres. Et il y a des sujets tout à fait considérables sur la table, certains qui sont plus importants que d'autres, on y reviendra.
Eh bien voilà, donc des perspectives positives, favorables. On avait dit bonne année l'Europe. Eh bien, à vous, chers auditeurs, bonne année. Et puis, à bientôt sur les ondes de Radio Grand Ciel.